Vous écoutez On lit pour vous.
Un grand cimetière de baleines au fond des abysses. Un texte d'Éric-Pierre Champagne, paru le 10 juillet 2026 dans La Presse. Des chercheurs chinois ont découvert au fond de l'océan Indien le plus grand cimetière de baleines jamais observé. Une percée illustrant à quel point les océans abritent encore de nombreux secrets qui résistent à la science. Des carcasses et des fossiles. Des chercheurs chinois ont fait la découverte stupéfiante d'un cimetière de baleines dans une fosse de l'océan Indien, à l'ouest de l'Australie. Le site, à 7000 mètres de profondeur, comprend à la fois des carcasses récentes et des restes très anciens. Certains fossiles répertoriés datent de 5,3 millions d'années. À cette profondeur, la pression est 700 fois supérieure à celle de la surface et l'obscurité est totale. Les scientifiques viennent de diffuser leurs conclusions dans une étude publiée dans la revue Nature. Une espèce inconnue est dévoilée. Cette découverte a notamment permis de répertorier une espèce de baleine jusque-là inconnue des scientifiques, un cétacé à bec ayant vécu il y a plus de 5 millions d'années, aujourd'hui disparu. Elle a été baptisée Pterocoetus diamantinae, en référence à la zone de fracture de Diamantina où elle a été trouvée. Cette baleine mesurait en moyenne de 4 à 6 mètres. Des millions de spécimens. Les chercheurs ont découvert des carcasses de baleines qui étaient réparties sur un corridor long de 1200 km. On a pu déterminer que certaines portions abritaient jusqu'à 760 squelettes par kilomètre carré. L'étude conclut que toute la zone pourrait abriter jusqu'à 10 millions de spécimens, ce qui constitue à ce jour le plus important cimetière de baleines jamais découvert. Toutes les baleines coulent-elles après leur mort? Bien que certaines espèces plus grasses, comme la baleine franche, flottent d'abord à la surface après leur mort, les cétacés, ou ce qu'il en reste, finissent presque tous par couler au fond de l'océan. Tout au long de sa descente, la carcasse permet de nourrir plusieurs espèces. Le processus se poursuit même à des profondeurs importantes, où tout un écosystème se nourrit des restes des baleines. Une découverte majeure en 1987. Ce phénomène appelé « chute des baleines », « whale fall », est bien connu des scientifiques depuis 1987. Craig Smith, océanographe de l'Université d'Hawaï, avait alors découvert une carcasse de baleine grise de 20 mètres se trouvant à plus de 1200 mètres de profondeur dans l'océan Pacifique, au large de la Californie. Depuis cette découverte, nous en savons plus sur la fin des baleines. Plusieurs scientifiques se sont inspirés des travaux de ce pionnier et y ont consacré leurs recherches. Des puits de carbone. Les chercheurs estiment que le cimetière découvert dans l'océan Indien représente environ 6,7 millions de tonnes de carbone séquestrées au fond de l'océan. Selon une analyse publiée en 2014 dans la revue Frontiers in Ecology and the Environment, une grande baleine séquestre en moyenne 33 tonnes de CO2, soit l'équivalent de 1000 arbres. Les espèces les plus susceptibles de stocker autant de carbone sont la baleine bleue, la baleine à bosse, la baleine noire et le cachalot. Or, ces espèces ont perdu en moyenne 66% de leur population au cours du siècle dernier. La baleine bleue, elle, a été réduite à 1% de sa population historique. C'était « Un grand cimetière de baleines au fond des abysses », un texte d'Éric-Pierre Champagne, paru le 10 juillet 2026 dans La Presse.
Lice veut utiliser des gants à impulsion électrique. Un texte de Jenny Gosselin avec Associated Press paru le 15 août 2026 dans la presse. Les agents de l'immigration aux États-Unis devraient bientôt être équipés d'un nouvel outil, des gants permettant d'envoyer des décharges électriques. L'annonce a soulevé des inquiétudes, l'ICE étant redouté pour ses interventions musclées. Je comprends en théorie pourquoi ils envisagent l'utilisation de ces gants pour obtenir la coopération de personnes récalcitrantes, parce qu'il s'agit d'une option de recours à la force non létale, explique à la presse Julianne Snyder, une ancienne policière du service de police de New York. Retraitée depuis 2020, celle qui donne actuellement des formations au John Jay College of Criminal Justice à New York ne s'est jamais servie des gants à impulsion électrique utilisés par certains corps policiers et dans des prisons américaines. Mais elle a pu en observer de près dans un congrès. Ils se portent comme n'importe quelle paire de gants jusqu'au moment où ils sont activés au moyen d'un bouton au dos de la main. Au contact de la peau, ils envoient alors un choc de 324 à 362 volts, permettant aux policiers de maîtriser la personne temporairement incapable de résister. Moins forte que celle d'un pistolet taser, ces décharges ne causeraient pas de brûlure sur la peau. Le département américain de la sécurité intérieure, qui chapeaute le service responsable de l'immigration et des douanes, mieux connu sous son acronyme anglais ICE, a récemment conclu une entente avec le fabricant de ces gants, Compliant Technology. Le contrat s'élèverait à 10 à 20 millions US selon Associated Press. La somme laisse penser aux experts que les gants seront distribués à grande échelle. Cette technologie n'est pas utilisée par les corps de police au Québec, a indiqué le ministère québécois de la Sécurité intérieure. Dans le moment, le gant à impulsion électrique n'est pas utilisé par les corps de police et n'a pas fait l'objet d'une demande de certification ou d'analyse par des corps policiers, a répondu dans un courriel une personne de l'équipe média du ministère. Le service des relations avec les médias de la Gendarmerie royale du Canada a aussi indiqué que celle-ci n'utilisait pas ses gants dans le cadre de ses opérations et qu'aucun projet ni aucune initiative visant à introduire ce type de dispositif n'est en cours. Des préoccupations sur l'encadrement. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, l'ICE a lancé une vaste opération visant à expulser des migrants sans statut légal. Ma principale préoccupation au sujet de ces gants est que les agents de l'ICE, s'ils en sont équipés, puissent les utiliser quand ce n'est pas nécessaire, dit Michael Mannheimer, professeur distingué de droit à la Northern Kentucky University. Il s'inquiète aussi des conséquences potentielles pour les personnes ayant certains problèmes médicaux. Les tactiques des agences fédérales chargées de l'immigration ont été dénoncées comme brutales. L'hiver dernier, la mort de deux citoyens américains sous les balles d'agents de l'ICE et de la Customs and Border Protection avait semé l'émoi. Le mois dernier, deux personnes ont aussi été tuées lors d'opérations au Texas et dans le Maine. D'autres interventions filmées ont soulevé des questions sur la formation des agents fédéraux. Le tsar des frontières, Tom Homan, nommé à ce poste par la Maison-Blanche, a défendu publiquement la décision d'équiper l'ICE de gants à impulsion électrique, les décrivant comme un dispositif pour rendre coopératif quelqu'un qui ne l'est pas. Vous ne pouvez pas passer de 0 à 100 en utilisant comme première option la force létale, a-t-il affirmé sur les ondes de Fox News. Il n'a pas donné plus de détails sur l'encadrement de leur utilisation. Une fois que les gants seront déployés sur le terrain, comment les agents de l'ICE seront-ils formés, se questionne Mme Snyder. Est-ce qu'il y aura des lignes directrices sur le moment où un agent peut les activer? Et dans quelle situation est-ce que ce sera considéré comme approprié d'envoyer un choc à quelqu'un? Selon elle, la priorité pour assurer une grande imputabilité reste les caméras corporelles. Le directeur de l'ICE a annoncé que ses agents en seraient tous équipés d'ici la fin du mois de septembre 2026. Limite. L'utilisation des gants à impulsion électrique reste limitée à certains contextes. Les gants ne fonctionnent pas, par exemple, par-dessus les vêtements. La décharge ne doit pas être envoyée pendant plus de 15 secondes et certaines parties du corps, comme la tête, le visage et la gorge, ne doivent pas être saisies avec des gants activés, selon le guide du fabricant. Madame Snyder s'interroge sur leur place dans l'éventail des moyens non létaux, généralement utilisés selon une gradation. « Ce sera intéressant de savoir », dit-elle. C'était « L'ICE veut utiliser des gants à impulsion électrique », un texte de Janie Gosselin avec Associated Press, paru le 15 août 2026 dans la presse.
Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 31 août. En 1994, retrait des troupes russes d'Estonie. Les dernières troupes russes quittent officiellement le territoire estonien, 3 ans après que le pays eut déclaré son indépendance de l'Union soviétique. Ce retrait marque la fin de plusieurs décennies de présence militaire soviétique puis russe dans le pays balte. Il constitue une étape symbolique importante dans la souveraineté retrouvée de l'Estonie. Le pays s'orientera par la suite résolument vers une intégration euro-atlantique. C'était Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 31 août.
Canal Saint-Martin. Un texte de Mario Girard, paru le 12 juillet 2026 dans La Presse. Juin 1994. Les roulettes des valises glissent sur le terrazzo de l'aéroport de Mirabel. On cherche le panneau des départs. Paris, Corsair, 21h10. Tout est beau. Mon chum et moi mettons en suspens nos carrières pour une année. Lui, pour écrire un ouvrage sur le droit des Autochtones. Moi, pour suivre des cours en histoire du théâtre. À moi les longues dissertations des professeurs soporifiques sur la présence du fantôme dans le théâtre japonais et shakespearien. À moi les amphithéâtres bondés et mal chauffé de la Sorbonne. Youpi! On a l'insouciance et la soif de vivre de la trentaine. On a surtout une grande envie de changer de décor. Nous sommes gâtés. Un appartement situé quai de Gemap, le long du canal Saint-Martin, nous attend. Il est au 5e, sans ascenseur, au fond d'une cour. Une cristallerie trône au pied de l'immeuble depuis 1890. C'est la dernière de Paris. Tous les jours, à travers les vitres sales, Je vois un homme qui répare du verre et du cristal. Des lustres, des coupes ou des vases passent sous ses mains habiles. J'ai toujours pensé que ça ferait un bon sujet de roman. Notre appartement est à un jet de pierre du célèbre Hôtel du Nord. Sur la passerelle courbée, située en face, des touristes reprennent la fameuse scène d'Arletty et Louis Jouvet, alors qu'elle a été tournée en studio. Atmosphère! Atmosphère! Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? À cheval, entre les 10e et 11e arrondissements, ce quartier grouille de petits cafés et de bars tabac typiques. Il y a aussi des marchands délicieusement désagréables qu'il faut séduire. Me voyant palper un melon, l'un d'eux m'a un jour balancé. « Monsieur, le melon n'aime pas ça. » Nous ne vivons pas pauvrement, mais Paris étant Paris, on surveille nos finances. Cela amène mon chum à chanter régulièrement à tue-tête « La bohème et toi qui poses nu. » Ne cherchez pas ces tableaux. Ils sont aujourd'hui à l'index. Au fil des années, j'ai vu ce quartier se transformer, s'embourgeoiser. Aujourd'hui, il est composé de restaurants et de boutiques où l'on trouve des vins oranges et des coffee shops qui proposent des matchas biologiques à 12 euros, recommandés par des influenceuses de TikTok. Le soir, il attire des centaines de jeunes qui viennent chiller le long des quais. Depuis le début de la canicule à Paris, les rassemblements ont pris une ampleur sans précédent. D'abord interdite, la baignade a été autorisée pendant quelques semaines avant d'être de nouveau interdite. Qu'à cela ne tienne, on vient quand même faire la fête, causer des incivilités et plonger dans cette eau à la qualité douteuse en laissant derrière soi des tonnes de déchets. Depuis quelques semaines, des employés de la ville de Paris aspirent des détritus qui flottent sur l'eau. D'autres, chargés de nettoyer les trottoirs, repoussent des canettes et des bouteilles de plastique vers le canal avec leur pulvérisateur à jet. Superbe contradiction. Parfois, un cadavre refait surface. On en a découvert deux au cours des derniers mois. Les scènes de barrage se font de plus en plus nombreuses la nuit. Les propriétaires, particulièrement les anciens, sont complètement exaspérés. De lieux bucoliques qui appartenaient à tout le monde, le canal Saint-Martin s'est sérieusement déglingué. Il est aujourd'hui assiégé. Comment expliquer une telle transformation? L'équation peut ressembler à ceci. Intérêt de la part d'investisseurs plus arrivée massive de nouveaux propriétaires plus montée des valeurs plus embourgeoisement plus buzz dans les médias plus envahissement de visiteurs ou de touristes plus perte de cohésion sociale, plus disparition de l'esprit communautaire. Voilà comment on assassine le charme. La pire des choses qui peut arriver à un quartier enchanteur est que des réseaux sociaux, en grande partie responsables des effets de concentration dans le surtourisme, décrètent qu'il est le plus cool de la planète. Ce qui arrive au canal Saint-Martin est le drame d'une foule de lieux publics dans le monde. Il faudra s'y faire. Ces endroits où l'on se sent seul au monde deviendront de plus en plus rares au cours des prochaines décennies. Frappé par les buzz, leur attrait sera anéanti par des foules inconscientes qui ne savent rien du pouvoir de la beauté tranquille sur l'être humain. Si vous connaissez un endroit où vous vous sentez bien, de grâce, n'en parlez pas. Gardez ça pour vous. C'était « Pauvre canal Saint-Martin », un texte de Mario Girard, paru le 12 juillet 2026 dans La Presse.
Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 1er septembre. En 1972, Bobby Fischer devient champion du monde d'échecs. L'Américain Bobby Fischer remporte le championnat du monde d'échecs à Reykjavik, en Islande, en battant le Soviétique Boris Spassky. Ce duel, disputé en pleine guerre froide, prend une dimension géopolitique symbolique dépassant largement le cadre sportif. La victoire de Fischer met fin à des décennies de domination soviétique sur les échecs mondiaux. Ce match reste considéré comme l'un des plus célèbres de l'histoire de ce sport. C'était « Éphéméride, un regard sur l'histoire ». C'est arrivé un 1er septembre.
Comment poser les jalons d'une bonne santé mentale tout au long de la vie de vos enfants, de 0 à 5 ans? Un texte de la rédaction paru sur le site de l'UNICEF. Édifier les bases de leur bien-être mental pendant cette période de développement et d'apprentissage. De son premier sourire à ses premiers pas, votre enfant va découvrir toute une palette d'émotions et franchir de nombreuses étapes déterminantes de son développement. Cette période d'apprentissage, qui le voit grandir de jour en jour, est le moment idéal pour édifier les bases de son bien-être mental. Posez les jalons d'une vie saine et épanouie. Votre enfant a besoin de votre amour. À vos côtés, il apprend et se sent en sécurité. Essayez de passer ensemble le plus de temps possible. Tissez des liens d'affection et de tendresse avec son enfant afin qu'il sache que ses parents sont là pour le protéger et prendre soin de lui est très important pour poser les jalons d'une bonne santé mentale tout au long de la vie. Bébé. Les moments précieux que vous passez avec votre enfant sont bénéfiques pour vous deux. Ce contact déclenche même la sécrétion d'hormones qui vous aide à tisser des liens avec votre bébé et améliore votre bien-être, mais aussi le sien. Jouez avec votre bébé. Faites-lui des câlins. Parlez-lui, chantez-lui des chansons. Mettez des mots sur ses vocalisations pour qu'il commence à appréhender le langage et la communication. Tout petit, votre enfant commence à marcher et n'a qu'une envie, explorer. Veillez à entretenir et à encourager cette curiosité. Faites la lecture à votre enfant, si possible tous les jours. Jouez à des jeux qui stimulent sa curiosité et favorisent l'apprentissage. Demandez à votre enfant de nommer les objets qui l'entourent en commençant par des choses simples. Découvrez ensemble l'environnement extérieur. Jeunes enfants. De plus en plus indépendants et curieux, votre enfant veut maintenant tout savoir sur le monde extérieur. En interagissant avec les autres, il va développer sa propre manière de penser et se forger une vision du monde qui l'entoure. Encouragez à travers le jeu les interactions sociales avec d'autres enfants. Proposez-lui de vous aider à réaliser certaines tâches ménagères à sa portée, en fonction de son âge. Accompagnez-le pas à pas dans la résolution de problèmes simples. Fixez des limites claires et des attentes réalistes. Après avoir dit non, Citez d'autres activités que vous préféreriez qu'il fasse. Proposez-lui des choix clairs et faciles à comprendre pour qu'il puisse décider ce qu'il veut manger, quels vêtements il veut porter ou à quoi il veut jouer. Les signes qui peuvent vous alerter. Les jeunes enfants ne savent pas encore très bien exprimer et gérer les émotions qui les submergent. Aussi, ils peuvent se laisser envahir par la colère ou par le stress lorsqu'ils ne parviennent pas à se faire comprendre. Dans ces situations, ils ont besoin du réconfort d'un adulte bienveillant qui les aide à surmonter leurs émotions. Les choses à éviter. La violence, sous toutes ses formes, y compris les cris et les coups. Un enfant élevé dans un environnement négatif risque d'atteindre un niveau de stress toxique préjudiciable à sa croissance et à son développement et susceptible d'engendrer des problèmes à plus long terme. Les disputes fréquentes entre parents et autres personnes présentes dans l'entourage de l'enfant. La tension ambiante peut s'avérer stressante pour les enfants qui risquent alors de se sentir négligés, impuissants et vulnérables. Toute forme de négligence. Pour grandir en bonne santé et se développer, les enfants ont besoin qu'on leur accorde une attention constante, qu'on leur témoigne notre amour et qu'on s'occupe d'eux. Rappel important, prenez également soin de vous. Tous les parents qui ont des enfants en bas âge passent par des émotions diverses selon les périodes. Joie, frustration, fatigue, nervosité. C'est tout à fait normal. Quand vous n'arrivez plus à faire face, essayez d'abord de combattre votre propre stress. Assurez-vous d'avoir le soutien de votre entourage. Essayez de vous isoler et de prendre du temps pour vous. Veillez à dormir suffisamment, à manger des aliments sains et à pratiquer une activité physique. Tous les nouveaux parents ressentent une forme de stress. N'ayez pas peur de demander de l'aide. Et soyez à l'écoute de vos propres besoins. C'était « Comment poser les jalons d'une bonne santé mentale tout au long de la vie de nos enfants de 0 à 5 ans », un texte de la rédaction paru sur le site de l'UNICEF.